La Bible, parfum de scandale. Une émission produite par Radio FM+ et présentée par Babette Soulier-Laporte et Ingrid Pratt.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Radio FM+. Nous voici de retour pour une autre émission de La Bible, un parfum de scandale, point d'interrogation, avec la pasteur Ingrid Pratt.
Toujours là.
Toujours là, de l'Epuma. Et moi, pour l'interroger sur des sujets toujours aussi faciles. Juste pour vous signaler, quand même, avant que nous n'oublions, que cette émission passe le vendredi, le premier vendredi du mois, à 19h05. Soyez attentifs, et évidemment, podcast. Voilà. Donc là, notre propos du jour est... Dieu nous envoie-t-il des signes ?
Va savoir.
Oui, voilà. C'est une vraie question. Est-ce qu'il en envoie tout le monde, comme nous tous, le Lumpecus, ou seulement à des personnages choisis, au premier rang desquels le Christ ?
Va savoir.
Voilà.
Voilà, on va essayer de répondre à la question.
Donc, petite introduction, le signe, en fait, séméione en grec, désigne une action spectaculaire, quelquefois miraculeuse, qui exprime par un détour quelque chose de Dieu. Donc, le vecteur est l'Esprit Saint et ses symboles sont protéiformes. Dans la Bible, le vent, le souffle, la source, l'eau, la colombe, le feu, l'huile, je ne sais pas si j'en ai oublié, peut-être d'autres, je ne sais pas. Alors, ce texte est le point pivotal, en fait, le texte qu'a choisi Ingrid, qui est donc Matthieu 3, tout le chapitre 3, qui est donc le baptême de Jésus, qui devient, enfin, je ne sais pas s'il devient Christ à ce moment-là, mais enfin, qui est reconnu comme Christ dans
le
Jourdain.
En tout cas, il y en a qui le croient.
Voilà, par Jean le Baptiste. Donc, ce texte même est le point pivotal, en fait, pour qui a la foi. Parce qu'il marque la limite, en fait, que ni l'agnostique ni l'athée ne franchiront, hein, comme le Rubicon. Je n'ai pas pu m'empêcher. c'est donc le baptême d'un homme nommé Jésus par un autre homme nommé Jean le Baptiste, dont il est précisé dans d'autres textes, d'ailleurs, qu'il est le fils de la cousine de Marie, Élisabeth. On se souvient de la fameuse scène. Donc, lorsque les deux femmes se rencontrent enceintes l'une et l'autre, l'Esprit-Saint fait reconnaître à Élisabeth le caractère particulier, proprement divin, de l'enfant que porte Marie. C'est dans Luc,
chez Luc.
Hein, voilà, 39-44. Donc, beaucoup de gens veulent bien reconnaître Jésus comme prophète. Bon, ça fait 2000 ans qu'on en parle, il doit bien avoir quelque chose.
Et puis, toujours là, en plus, dans
derrière.
L'histoire.
Donc, voilà. Bon, mais de là à ce qu'il soit le Fils de Dieu, le Christ, il y a le saut de la foi, le choix de croire, l'appel entendu ou pas, la grâce, dirions-nous. Le signe reçu ici, dans le texte, c'est la colombe. C'est évidemment le plus célèbre des signes que Dieu envoie. Il y en a déjà eu des signes avant celui-là, et il y en aura après. Mais ce qui peut sembler, ce qui me semble très paradoxal, c'est que Jésus exprime souvent sa lassitude devant ces hommes qui ont tout le temps besoin de signes pour croire. Par exemple, dans Luc 11, 29, il dit « Cette génération est une génération mauvaise, loin quand même. Elle demande un signe, il n'y en sera pas donné d'autre que le signe de Jonas. » Le séjour, par exemple, 3 jours et 3 nuits de Jonas dans le ventre de ce qui n'est pas forcément une baleine, parce que j'ai compris.
On est bien d'accord.
C'est un gros poisson.
Un gros poisson.
Préfigure le séjour de Jésus au tombeau. Et j'ai trouvé que Jonas signifie en hébreu colombe.
Absolument.
Ça, c'est amusant.
C'est peut-être un signe.
Donc, c'est peut-être un signe. Donc, je pense que Ingrid va nous lire le texte.
Donc, ce texte de l'évangile de Matthieu, chapitre 3, et donc il s'agit du contexte du baptême de Jésus. En ces jours-là parut Jean le baptiseur. Il proclamait dans le désert de Judée « Changez radicalement car le règne des cieux s'est approché ». C'est de lui qu'il a été dit, par l'entremise du prophète Ésaïe, c'est celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers ». Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain, se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême, il leur dit « Vipères, qui vous a montré comment fuir la colère à venir ? Produisez donc un fruit digne du changement radical et ne pensez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous dis que c'est Pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la hache est prête à attaquer les arbres à la racine. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour un changement radical. Mais celui qui vient derrière moi est plus puissant que moi, et ce sera encore trop d'honneur pour moi que de lui ôter ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa fourche à la main. Il nettoiera son aire. Il recueillera son blé dans la grange. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors Jésus arrive de Galilée au Jourdain, vers Jean, pour recevoir de lui le baptême. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin de recevoir de toi le baptême, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il convient qu'ainsi nous accomplissions toute justice. » Alors il le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l'eau. Alors les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix retentit des cieux. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir. »
J'avais que j'ai mis toute ma joie,
mais bon, ouais,
ça revient à peu près au même.
C'est vrai.
Bien, alors, première chose, Jean sait qu'il n'est pas de même nature que son cousin Jésus, or ils sont cousins, quoi, hein, comme ouais. Voilà, nous en avons tous. Et il fait le lien avec le Premier Testament, hein, celui oui. Donc dans le prophète Isaïe qui disait donc qui est annoncé comme celui qui prépare des sentiers droits pour le Seigneur. Ouais. Alors comment il le sait qu'il est différent de son cousin? Est-ce que c'est à cause de la grossesse de sa mère?
Va savoir comment oui. Il le sait. Oui. Alors déjà Jean, je crois, il se comprend lui-même, je dirais à la lumière du livre d'Isaïe. Et d'ailleurs, la phrase qu'il dit, il la reprend d'Ésaïe.
Oui.
Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Donc ça, c'est Ésaïe 40.
Oui. D'accord. Oui.
Donc, il sans doute qu'il se sait précurseur, mais il sait qu'il n'est pas le centre.
D'accord.
Et finalement, sa mission, ça va être d'en indiquer un autre.
D'en indiquer voilà. Un autre. Et donc, de bien faire que ce soit le Messie attendu par les Juifs, ouais. Justement. Puisque c'est le Premier Testament.
C'est ça.
Enfin, c'est ce qui est... Sous-entendu, oui.
Oui, c'est d'accord. Sous-entendu. D'accord. Alors, pour Jean, alors il y a cet épisode où, le fœtus, en fait, je ne sais pas, tressaille oui. Dans le sein d'Élisabeth.
Oui. C'est, quand elle entend Marie ouais, la saluer, en fait.
Quand elle entend Marie la saluer.
Ah, oui.
On est dans la... je dirais dans la... C'est une narration un peu merveilleuse, il faut...
Oui.
Ça peut rendre les choses
oui.
Jolies, voilà, comme oui. S'il fallait préfigurer quelque chose.
Oui. Est-ce que ça, c'est un signe déjà ou pas? Voilà.
Est-ce que c'est un signe?
Bien malin qu'il dira.
Ouais, oui, je ne sais pas. En tout cas, pour Jean, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est du savoir psychologique, oui. Mais c'est vraiment de l'ordre de la révélation dans l'esprit, quoi.
Il, d'accord.
Celui qui vient derrière moi est plus puissant que moi.
Oui.
Jean sait qu'il est prophète. Et quelque part, il comprend que Jésus est plus qu'un prophète.
Plus qu'un prophète.
Qu'est-ce qui lui fait dire ça à ce moment-là?
Oui.
Voilà.
Oui, oui, évidemment.
D'accord. Une intuition.
Oui, une intuition, sans doute. Oui, tout à fait. Ah, oui. Tout à fait. Alors, donc, Jean le Baptiste, effectivement, qui n'est pas encore le Baptiste, mais Jean baptise dans le Jourdain. Et il baptise, alors, Jérusalem, il baptise plein de gens. Hein.
Ah, ouais.
Donc, Jérusalem, toute la Judée, toute la région du Jourdain. Est-ce que ce sont des est-ce que le baptême est un signe à ce moment-là pour ces gens-là et si oui de quoi
oui.
Parce qu'il est lié dans le texte que tu as lu à la confession des péchés.
Oui.
Voilà, c'est-à-dire qu'on vient se faire oui. Baptiser dans l'eau pour se purifier.
C'est ça.
Et
c'est une confession publique.
Oui.
Des péchés.
D'accord.
En fait, le baptême de Jean, en fait, c'est un signe de conversion.
D'accord.
C'est-à-dire, c'est le moment où on reconnaît publiquement qu'on est pécheur et qu'on a envie de changer de vie. Quelque part, c'est un geste en attente du jugement qui doit devenir à la fin des temps. Il y a quelque chose comme ça.
D'accord.
Ce baptême est déjà très répandu, en fait. À Jérusalem, en Judée, dans la région du Jourdain. C'est pas du tout un geste marginal qu'il fait.
D'accord.
À ce
oui, c'est intéressant, ça.
Ouais,
oui, je savais pas du tout. Ouais.
Et. Il y a son baptême, il est presque, il est plein de menaces, il fait peur quand
même. Mais oui, parce qu'il y a, oui, c'est ça, dans les versets 7 à 10, en gros, il faut y aller, sinon on est damné, quoi, enfin, d'une certaine façon.
C'est ça, ouais. Quand on lit ça, on se dit, bon, ben, je vais y aller.
Hein? Oui, ben oui, oui, on ne va pas non plus. Oui. Donc, c'est moins un signe qu'un refuge, ou je ne sais pas comment dire, c'est étonnant. Enfin,
mais je crois qu'il ne faut pas voir... c'est pas une menace, c'est plutôt une dénonciation qu'il fait à ce moment-là. Ce qu'il dit, en gros, c'est que ce signe du baptême, sans conversion réelle, est une complète hypocrisie.
D'accord.
Et finalement, ce que fait Jean, là, c'est qu'il dénonce la sécurité religieuse. D'accord. D'ailleurs, il va dire ce que les gens disent. Ils disent, nous avons Abraham pour père.
Oui.
Donc, on peut se complaire dans la religion de nos pères.
Oui, on ne risque rien.
Et on ne risque rien. Et lui, justement, il dit, bah, c'est pas ça, le baptême. Oui. Le baptême, c'est vraiment un choix personnel.
Oui.
Et c'est une conversion tout à fait personnelle, mais il faut qu'elle soit suivie de faits.
Oui.
Sinon, c'est complètement hypocrite.
D'accord. Oui. Voilà. C'est un peu comme quand il y avait toutes ces critiques aussi sur les gens qui prient de façon ostentatoire
à
la croisée des chemins pour que tout le monde les voit. Voilà. Ouais, c'est un peu le même. D'accord.
En fait, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut que le signe soit porteur de fruits, sinon c'est un mensonge.
Oui. D'accord. Voilà. Et alors, moi, quelque chose qui m'a toujours perturbée quand même, c'est que pourquoi est-ce que c'est Jean qui baptise Jésus et pas l'inverse? Parce que à partir du moment où il reconnaît Jésus comme le Christ, bon, ça aurait été plus logique. Est-ce que c'est un signe d'humilité de la part du Christ? Est-ce que c'est un... J'ai trouvé ça curieux.
C'est toujours très curieux. Hein? Et en même temps, c'est un point théologique majeur.
D'accord. Ah bon, d'accord.
Au fond, Jésus, il n'a pas besoin de conversion.
Non. Ah oui.
Mais ce qui est génial là, c'est que en se faisant baptiser par Jean, comme les autres, c'est qu'il s'identifie au pécheur et qu'il entre pleinement dans la condition humaine.
Dans l'humanité, d'accord.
Et je dirais que par ce geste, il inaugure complètement sa mission, celle qui va venir. Et donc, Jean le baptise d'eau, c'est le baptême de conversion. Et Jésus, lui, c'est ce que dit Jean, va baptiser dans l'esprit et dans le feu.
Et le feu, oui.
Ça, alors là, des fois, on s'est dit, mais pourquoi?
Oui, voilà, oui. Tout
donc,
à fait.
L'eau, c'est la conversion. Oui. Et la notion d'esprit et de feu, c'est vraiment la transformation intérieure.
D'accord.
Il y a ce qui se donne à voir et puis il y a ce qui se donne à être.
Oui, je comprends.
Quelque chose de plus.
Parce qu'une conversion, on sait. C'est se tourner.
La métanoïa, c'est une métanoïa, retournement, en fait.
Tout à fait, d'accord. Tandis que oui, je comprends le feu et l'Esprit Saint, je comprends mieux aussi. Parfait. Alors, le ciel s'ouvre, et l'Esprit Saint descend sous forme de colombe. Qu'est-ce que ça représente? Parce qu'il y a un autre endroit où les signes sont aussi forts, c'est au moment de la crucifixion. Oui. C'est quand le rideau qui se déchire,
l'obscurité.
Donc là, c'est vraiment des choses importantes. C'est-à-dire au moment où Jésus entre dans le divin et quand il en sort, enfin, je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre comment ce. Voilà.
Le ciel ouvert.
Oui.
Je dirais que, alors peut-être que je me trompe, mais symboliquement, c'est la fin de la séparation entre Dieu et l'humanité.
D'accord.
Le ciel qui s'ouvre.
Oui.
Et on pourrait dire que c'est le début des temps messianiques.
Oui.
Ce que tout le monde attend, à cette époque-là. Alors, la colombe, on la retrouve dans plein endroit, avec Noé. C'était déjà... un signe de nouvelle création.
Tout à fait.
Quand elle arrive, c'est un symbole de paix. Après, ça peut être une allusion possible à la douceur du serviteur d'Isaïe, parce qu'il y a... Mais bon, je suis pas allée plus loin sur ce côté-là. Et puis, il y a cette voix, voix qui arrive, là. Mon fils bien-aimé. Alors ça, c'est le psaume 2. Il y a le psaume 2 et Isaïe 42. Voilà.
D'accord. Et donc, tu as déjà répondu à ma question suivante. Voilà. ce qui m'intéresse aussi, c'est à qui Dieu envoie-t-il des signes? Tu as parlé des prophètes, justement, aux ermites, parce que Jean est un ermite. Ouais. Non, enfin, je veux dire, il a le tunique en poil de chameau, la ceinture de cuir, la sauterelle, le miel sauvage, il a tout un paraphernalia de ce qu'il faut. Ouais. Voilà. À des gens particuliers, ou est-ce qu'il en envoie aussi à nous ?
Ça, j'en suis convaincue. Mmh. Ouais. Alors, dans la Bible, c'est aux prophètes, aux humbles, parfois aux foules, parfois aux païens. En fait, tout le monde en prend. Hein. Mais ce qui est, ça, tu l'as dit dès le départ, hein, Jésus s'est toujours montré très méfiant face à la demande compulsive de signes. Oui, c'est un peu ça.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait.
Parce que le signe, en fait, il n'est pas donné pour satisfaire la curiosité, mais plutôt pour appeler à la foi et à la conversion. Alors aujourd'hui, la tradition chrétienne enseigne que le signe ordinaire de Dieu, finalement, c'est la parole. Et chez nous, réformés en particulier, bah, ça va être le baptême et la scène. Ça, ce sont les signes un peu récurrents. Après, les signes extraordinaires, c'est pas la norme ni une preuve automatique. Et ce qui est intéressant, peut-être, c'est d'aller voir chez Jean, dans l'évangile de Jean, comment ça se joue. Parce que dans l'évangile de Jean, le mot grec, séméion, pour un signe, est absolument central. Or, chez Jean, c'est là où il y a le plus de miracles. Et à chaque fois qu'il va, nous, ce qu'on a gardé en mémoire, c'est vraiment cette notion de miracle.
Oui,
et à chaque fois qu'il fois qu'il parle de miracle, il ne parle pas de miracle, il parle de signe.
Ah, c'est intéressant. C'est pas étonnant de la part de Jean.
Bah non, voilà, c'est un choix théologique fort, parce que finalement, il dit que le signe, c'est pas un prodige, c'est pas un truc merveilleux, c'est une réalité visible qui révèle une vérité invisible sur l'identité de Jésus. Donc, il n'y a jamais de démonstration de puissance. À chaque fois, ça demande une interprétation. Et ce signe va provoquer à chaque fois la foi ou le rejet. On a vraiment les deux.
Les deux, oui.
Alors, le signe, en soi, il n'oblige pas à croire. Mais en tout cas, il met devant un choix.
Devant un choix, oui, tout à fait.
Toujours. Mais c'est pareil pour nous, en fait.
Oui, bien sûr.
Même au quotidien. Même s'il y a des choses qui nous émerveillent, qu'est-ce que ça nous fait ? Est-ce qu'on continue ou est-ce que ça réveille quelque chose d'autre ?
Voilà.
C'est ça qu'il faut regarder.
C'est ça qui est important.
Alors, c'est vrai qu'il y a tous ces signes chez Jean, il y en a sept.
Oui, on va peut-être les revoir un petit peu après la musique, peut-être, parce que là, on est à...
Il y en a sept et là, il va nous en falloir juste un.
Il suffira
d'un signe.
Tout à fait. Bien, donc, le signe de Jean-Jacques.
Le meilleur.
Mais voilà, absolument. Mais nous revenons au signe de Jean.
Oui, donc chez Jean, il y en a sept. Il y a l'eau changée en vin, la guérison du fils de l'officier, le paralytique à la piscine, la multiplication des pains, la marche sur la mer, l'aveugle né et la résurrection de Lazare. Ce sont les sept signes chez Jean. Et à chaque fois, ça nous paraît des choses complètement extraordinaires.
Oui.
Et dans chacune de ces situations, les gens qui sont témoins de ça, soit ils restent bouche bée, soit ils ne comprennent pas. Voilà, qu'est-ce que ça va bouger à l'intérieur d'eux? Qu'est-ce que ça vient
titiller?
Et je crois que cette question, elle, elle nous est posée à nous, parce qu'on est toujours témoin de choses belles.
Oui.
Et qu'est-ce que ça vient titiller? Moi, le soleil qui se lève tous les matins, c'est merveilleux.
C'est un bonheur.
C'est un bonheur. C'est, c'est surtout quand on ne l'a pas vu depuis longtemps.
Absolument, en ce moment.
Et,
oui.
C'est, c'est, voilà, c'est aussi un signe. Qu'est-ce que ça vient titiller? Est-ce que ça me, est-ce que ça me lève? Est-ce que ça me met en marche? Est-ce que, voilà.
Oui, ça dépend de ce qu'on en fait aussi.
Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on reçoit?
Voilà,
dans le, dans l'espace du merveilleux ou du presque du contre, enfin du contre-nature. Ou
Parce que le critère, ça serait finalement quelque chose qui n'est pas, parce que le fait que le soleil se lève le matin, c'est quand même quelque chose d'attendu, on va dire.
On
voilà. Est-ce qu'il faut, pour que le signe soit signe, qu'il ait un caractère un peu extraordinaire et un peu inattendu, inexplicable, mystérieux ou pas du tout?
Je suis pas convaincue de ça.
D'accord.
Regarde, si, si on dit que le baptême et la scène sont les signes que Dieu nous donne, il y a presque rien d'extraordinaire.
Oui.
Et pourtant, à chaque fois qu'on célèbre un baptême, toute la communauté se, se réjouit et se met en marche derrière.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Et parce que... Oui, je comprends sur l'idée de critères. Mais justement, comme on n'arrive pas à savoir exactement, enfin définir exactement le contexte et le contenu d'un signe, finalement... moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que le Christ est tenté par le diable au désert juste après ce texte-là. Donc, c'est contradictoire. Je veux dire, est-ce que c'est pour tester la force du signe?
On peut se poser la question.
Et oui, mais... parce que des signes comme ça,
quelle horreur.
C'est rigolo. Voilà, c'est après pour être tenté.
Pour moi, quelque part, c'est pas complètement contradictoire. Parce que cette tentation, elle montre que même après un signe éclatant, la liberté demeure. Et ça, Jésus, il le démontre.
Oui, il y a un libre arbitre derrière.
Il y a un libre arbitre. Il y a la question du choix là, qui est encore... qui dit que finalement, le signe, quel qu'il soit, ne va pas supprimer l'épreuve. Ce n'est pas parce qu'on a reçu quelque chose d'extraordinaire, de magnifique, que ça y est, c'est fini. On est sous garantie pour la vie.
Oui, c'est ça. Ça y est, sa prévente est terminée.
C'est heureux finalement que Jésus soit tenté juste après cette chose très forte pour lui. Et...
Oui, parce qu'il a eu le signe des signes. Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire mieux. Donc,
mais ce signe-là,
malgré ça,
ne va pas supprimer l'épreuve.
L'épreuve, non.
C'est jusqu'au bout. Hein.
Oui, tout à fait, bien sûr. Et la passion, Parce que, alors, je reviens un peu plus à notre quotidien et à notre époque, comme le signe n'est pas, comment dire, ça n'est pas clair, il n'y a pas « ceci est un signe, ceci n'en est pas ». C'est un peu comme « ceci n'est pas une pipe ».
Voilà, c'est ça.
Mais donc, il y a un danger, en fait, d'emprise par des gourous, par des gens qui vont dire « ben voilà, moi je suis un voyant, j'ai vu que… » Donc, vous allez maintenant, comment dire, conduire votre vie en fonction de ce que je vous dis. Moi, j'ai la ligne directe avec Dieu, moi, il m'a parlé, Dieu ou la force, enfin, ils inventent le soleil ou je ne sais quoi, enfin, voilà.
Dieu m'a dit te dire que...
Voilà, donc faire de ça
ça existe, hein,
même
dans les églises, des gens qui manipulent par la peur, qui tirent pouvoir ou argent,
par le
biais des signes.
Ils sont élus. Ils jouent sur ce côté, comme
sur
le Christ
ce côté-là.
A dit.
Voilà.
Christ l'est, mais eux jouent sur ce côté.
Et c'est affreux, mais ça correspond pas du tout, mais alors pas du tout au modèle biblique. C'est parce que finalement, si on regarde bien dans la Bible, les vrais prophètes et ceux qui font des signes ou qui en reçoivent ou qui en parlent, jamais ils vont s'autoproclamer, jamais ils vont s'enrichir. Ils acceptent la contradiction.
Oui,
c'est pas le cas
aussi.
Ils renvoient toujours à Dieu et jamais à eux-mêmes. Donc, Peut-être que,
oui.
chers auditeurs, si vous êtes victime de gourous ou de harcèlement, regardez de ce côté-là.
Oui.
Dans les évangiles synoptiques, comme l'évangile de Matthieu d'ailleurs, Jésus refuse souvent de donner des signes.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai.
Lui, il ne veut pas.
Oui, non, non, c'est vraiment, voilà. Oui.
Et dans l'évangile de Jean, par contre, les signes sont assumés, mais ils sont toujours interprétés.
Voilà.
Et ils ne sont jamais donnés pour satisfaire la curiosité.
C'est ça, oui. Parce que les signes, souvent, effectivement, il dit « ne me demandez pas de signes mm-hmm. » ou quand il a fait un miracle ou un signe, mm-hmm. il dit « n'en parlez pas ».
Ouais.
Hein, c'est bizarre, c'est vraiment contre l'évangélisation grâce à ça, parce que c'est pratique au fond. Je veux dire, eux, ils étaient contemporains de Jésus, c'est quand même plus facile de leur dire « regardez, il a changé l'eau en vin, c'est pratique ».
On peut manipuler les foules comme ça.
Avec ça, ouais, c'est sûr. Ouais.
Or, moi, je dirais plutôt comment on se fait confiance à nous-mêmes pour reconnaître quelque chose qui nous bouge de l'intérieur.
Voilà.
Et c'est pas quelqu'un à l'extérieur qui
va donner un brevet
dire,
de
regarde ton café quand tu le remues vers la droite il tourne vers la gauche c'est un signe.
Oui.
Non.
Je comprends, c'est par toi-même.
C'est par nous-mêmes.
Oui, tout à fait.
L'idée c'est d'être en relation avec le tout autre, quelque chose de plus grand que nous.
Bien sûr.
Mais c'est pas un être
la
humain
place
qui pourrait gérer ça, surtout s'il le ramène à lui, quoi.
Oui, tout à fait. Et bon, c'est ma dernière question, je vois à laquelle tu as un petit peu répondu déjà, mais pas complètement. Que faut-il faire d'un signe, justement? Quelle attitude adopter ensuite? Dans le texte que j'avais, moi, c'était « changer car le royaume des cieux est proche ». Ce fameux royaume des cieux, on en a déjà parlé. Voilà, est-ce que c'est une question d'acte, c'est une question de... Est-ce que c'est plus qu'une conversion?
Alors, je dirais déjà, changer, car le royaume des cieux est proche.
Oui.
C'est-à-dire, il est là, il n'est pas là. Ça veut dire que le signe, c'est jamais une fin.
Oui.
Il appelle à la conversion, il appelle à la confiance, il appelle à des actes, concrets.
Oui.
Je dirais que le critère ultime n'est pas l'intensité du signe, mais la transformation qu'il opère.
D'accord.
Oui. Pour soi. Et peut-être qu'il faut bien avoir, je le redis, parce que un signe, il ne contraint pas. Un signe, il n'est pas magique. Et un signe ne dispense surtout pas du discernement.
Oui.
Et au contraire, il appelle à lire au-delà du visible, à reconnaître la présence de Dieu dans l'ordinaire. Il invite à passer du phénomène à la relation.
À la relation, oui, je comprends, la relation recherchée avec Dieu même.
Oui.
Ouais. Et donc, quelle serait la différence entre signe et miracle? Parce que tu as dit que pour Jean, lui, qui est appelé miracle dans les autres évangiles, est plutôt lui...
de l'ordre du signe.
Sous l'ordre du signe. Pourquoi il y a cette différence? C'est bizarre, parce que dans le miracle, il y a un côté plus contraignant, je trouve, pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Un miracle, les bras t'en tombent, donc oui, c'est le Fils de Dieu, enfin, oui, Dieu est là.
Ouais. Il y en a qui le reçoivent comme ça.
Plus que voilà, c'est, oui. Ouais.
Mais c'est, quelque part, c'est pas faux non plus de le traduire par miracle, parce que quelque part, c'est un miracle. Après, il y a des gens aujourd'hui qui vont te dire, le miracle, il n'existe pas, ça n'existe pas, les miracles, les miracles n'ont jamais existé. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est témoin de choses comme ça? Moi, je pense à ces gens qui ont été témoins de ces choses-là. Comment ils font pour vivre avec ça? Et qu'est-ce que ça transforme en
nous? Oui, forcément.
Qu'est-ce que ça transforme? Parce que forcément, ça transforme quelque chose. Est-ce qu'on s'en fout? Est-ce qu'on laisse dire, c'est bon?
Oui. Oui, je comprends.
Blasé.
Oui, non, ça paraît difficile dans ces cas. Mais c'est vrai qu'après le baptême ou la scène dont tu as parlé, qui sont aussi des signes, je ne veux pas dire que ce sont des signes réchauffés, mais si, ce sont des signes seconds, en fait, on va dire. Hein, c'est-à-dire qu'ils répètent d'autres signes. Hein. Faites ça en mémoire de moi.
Et donc, ça répète le signe, en fait.
D'accord.
C'est un signe
ça le fortifie.
Répété. Ça le fortifie. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Et en fait, tout ce qu'on doit en faire, et c'est ce que dit finalement... Jean le Baptiste, portez du fruit, produisez du fruit.
Voilà.
Et en fait, c'est la seule vocation du signe. Du signe.
C'est la fructification.
C'est la fructification. Portez du fruit.
Portez du fruit. Mais sur ces bonnes paroles, nous allons nous dire au revoir, Ingrid.
À bientôt.
À bientôt, chers auditeurs, pour une nouvelle émission pour le mois prochain. Merci de votre écoute et merci à Yann.
C'était La Bible Parfum de Scandale, à retrouver en podcast, en écoute à la demande ou téléchargement gratuit sur radiofmplus.org.